France Culture.
Bonsoir Astrid, bonsoir à tous. New York élit son maire aujourd'hui et c'est un démocrate musulman, Zoran Mamdani, qui est le favori du scrutin. Donald Trump appelle les juifs new-yorkais à voter contre lui. Dans un instant, le reportage de Franck Madvon dans un bureau de vote de la mégapole américaine. Volodymyr Zelensky sur le front dans le Donbass. Le président ukrainien était près de Pokrovsk aujourd'hui, une ville stratégique infiltrée par les soldats russes qui espèrent la conquérir avant la fin de l'année. La filière automobile française se mobilise contre la fin des véhicules thermiques. L'Europe veut en interdire la vente dès 2035. Des milliers d'emplois sont menacés, répondent les constructeurs et les équipementiers. À la fin de ce journal, nous reviendrons sur le prix Goncourt 2025, décerné cette année à Laurent Mauvignier. Son roman « La maison vide » est une fresque familiale de 750 pages qui traverse les deux guerres mondiales. C'est un test électoral majeur pour les démocrates. Un an après leur déroute face à Donald Trump à la dernière présidentielle américaine, le parti de Barack Obama et de Kamala Harris pourrait remporter cette nuit la mairie de New York grâce à un élu local de 34 ans, Zoran Mamdani, un musulman d'origine indienne. Il est le favori des sondages face à l'ancien gouverneur Mario Cuomo, soutenu lui par le président américain. Mamdani représente l'aile gauche du parti démocrate et il se définit comme socialiste. Les New-Yorkais ont commencé à se rendre aux urnes pour élire leur maire. Franck Madvon s'est rendu dans un bureau de vote du Queens, le fief électoral du candidat démocrate.
Zoran Mamdani vient de voter dans son quartier du Queens. Un vote matinal, avant 8 heures. Le favori de l'élection veut avoir le temps d'un dernier tour en ville pour encourager les New-Yorkais à aller aux urnes.
Nous sommes sur le point d'écrire une page de l'histoire de notre ville, sur le point de dire adieu à une politique du passé, une politique qui vous dit qu'elle ne peut pas agir, mais qui en réalité dit qu'elle ne veut pas agir. Nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle ère où nous comprenons que nous ne pouvons pas choisir l'ampleur de la crise face à nous, mais que nous pouvons choisir la manière d'y répondre. Aujourd'hui, nous avons jusqu'à 21h pour dire que notre heure est venue.
Samuel sort de ce même bureau où il a voté Mamdani. Ce musicien de 31 ans est arrivé il y a un mois à New York, mais ne voulait surtout pas manquer l'élection du maire.
La première chose que j'ai faite en arrivant, c'est de m'enregistrer pour voter à cette élection, notamment parce qu'il y a une perspective nationale. Zoran crée de l'enthousiasme, il est bien plus authentique. Son approche semble moins calculé que ce que propose l'establishment démocrate. Les gens ont vraiment envie d'un leader et Zoran comble ce vide.
Les partisans de Zoran Mamdani se montrent confiants, leur champion a une large avance dans les sondages, mais ils savent que les élections réservent parfois des surprises aux États-Unis.
Le reportage à New York de Franck Madvon. Donald Trump a appelé tout à l'heure les juifs new-yorkais à voter contre le candidat démocrate. Toute personne juive qui vote pour Zoran Mamdani est une personne stupide, écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Trump qui accuse le favori du scrutin de haïr les juifs. Zoran Mamdani est un farouche défenseur de la cause palestinienne dans la guerre à Gaza et ses prises de position anti-israéliennes lui valent l'hostilité d'une partie de la communauté juive. En Californie, on vote aussi aujourd'hui un référendum pour approuver ou non la proposition 50, un redécoupage électoral particulièrement favorable aux démocrates, déjà largement majoritaire dans l'État. Si le oui l'emporte, le parti démocrate enverrait encore plus d'élus californiens au Congrès. Les Américains parlent de gerrymandering, que l'on peut traduire par charcutage électoral dans sa version péjorative. Pour les partisans du oui, ce référendum est une riposte californienne aux républicains de Donald Trump. Le reportage de Loïc Piala à Manhattan Beach, dans le comté de Los Angeles.
Des prospectus dans une main, les yeux rivés sur le GPS de son téléphone, Chris arpente les rues de Manhattan Beach sous le soleil d'octobre.
On va aller à la première maison, juste à côté, frapper à la porte et on verra.
Le jeune démocrate démarche pour la proposition 50. Le référendum propose une nouvelle carte électorale de la Californie. En redessinant des circonscriptions traditionnellement favorables aux républicains, les démocrates récupéreraient 5 sièges au Congrès l'an prochain. Une réponse au Texas qui a fait la même chose pour favoriser les républicains à la demande de Donald Trump.
Trump a pris 5 sièges, on tente d'en reprendre 5. Pas parce qu'on veut renverser le pouvoir, mais pour que ce soit juste. Le jeu est truqué tel quel, alors la Californie riposte. Je préférerais mettre mon militantisme au service d'autre chose, mais à mes yeux, on nous force à agir de la sorte.
California, the whole nation is counting on you. Barack Obama a appelé à voter oui. L'ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, milite pour le non.
Parce qu'on se bat contre Trump, on doit devenir Trump. Ça n'a aucun sens pour moi. On ne répare pas une injustice avec une autre.
Signe des enjeux nationaux, la campagne a coûté plus de 200 millions de dollars en publicité. Les sondages donnent le oui vainqueur.
Le reportage de Loïc Piala, correspondant à Los Angeles. On reste aux États-Unis pour évoquer la disparition d'une figure de la vie politique américaine. L'ancien vice-président Dick Cheney est mort aujourd'hui à l'âge de 84 ans, emporté par une maladie pulmonaire et des problèmes cardiaques. Il avait passé 8 ans à la Maison Blanche sous la présidence de George W. Bush entre 2001 et 2009. Dick Cheney, considéré à Washington comme l'un des vice-présidents les plus puissants de l'histoire américaine. Timur Özturk nous appelle des États-Unis.
Un néoconservateur qui a laissé sa marque à la Maison Blanche. L'influence de Dick Cheney nous ramène aux années Bush. Bush fils, dont il devient le vice-président en 2001, mais avant cela Bush père dès 1989 en tant que secrétaire à la Défense. Il dirige l'armée américaine lors de la guerre du Golfe en 90-91 et c'est lui qui annonce que l'armée irakienne est vaincue et Bagdad détruite. Plus d'une décennie plus tard et un passage dans l'industrie du pétrole, Dick Cheney joue un rôle essentiel après le 11 septembre dans le déclenchement de l'invasion de l'Afghanistan, puis de l'Irak en 2003, au prétexte mensonger de la détention d'armes de destruction massive par Saddam Hussein. Dans la guerre contre le terrorisme engagée par les États-Unis, Dick Cheney assume l'utilisation de la torture qui l'euphémise en technique renforcée d'interrogatoire et notamment la simulation de noyade. Dick Cheney n'a jamais exprimé de regrets sur ses mensonges à propos de l'Irak ni sur l'utilisation de la torture, mais après son départ de la Maison Blanche en 2009, il s'éloigne peu à peu des conservateurs sur certains points. Il défend le mariage gay. Sa fille est lesbienne. Plus tard, il s'oppose à l'ascension de Donald Trump chez les Républicains, plus grande menace de l'histoire des États-Unis pour la République selon lui. Lors de la dernière campagne présidentielle, il avait pour la première fois de sa vie appelé à voter démocrate en soutenant Kamala Harris.
Timur Özturk, correspondant aux États-Unis. Ce soir, George W. Bush rend hommage à son ancien vice-président Dick Cheney, un patriote qui a fait preuve d'intégrité et d'intelligence dans toutes les fonctions qu'il a occupées. Fin de citation. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky annonce s'être rendu une nouvelle fois sur le front Est dans le Donbass, plus particulièrement dans la zone de Pokrovsk, ville stratégique du Donbass, que l'armée russe serait sur le point de conquérir. Une visite sur le terrain du président ukrainien, alors que des soldats russes sont déjà présents dans la ville. Virginie Pironon.
Et sur cette vidéo publiée par la présidence ukrainienne, Volodymyr Zelensky, tout de noir vêtu, remet des décorations à des soldats qui mènent la défense près du village de Dobropilia, à une vingtaine de kilomètres de Pokrovsk. Pokrovsk, une logistique essentielle pour l'armée ukrainienne, à la jonction de plusieurs routes et de lignes ferroviaires. Après plus d'une année de combats acharnés, cette fois les Russes sont entrés dans la ville. Ils seraient 200 selon les autorités ukrainiennes, beaucoup plus selon certains analystes. La prise de Pokrovsk permettrait à la Russie d'ouvrir une voie vers l'ouest et de lancer un assaut sur les villes de Kramatorsk et de Sloviansk. Alors pour avancer, Moscou a changé sa stratégie, terminé depuis cet été les attaques de front. Il s'agit désormais par petits groupes, 2 à 5 hommes, de contourner les lignes ukrainiennes pour affaiblir la ligne de défense. Samedi, Moscou a déclaré que des soldats ukrainiens commençaient à se rendre. Pas du tout, a rétorqué Kiev, qui affirme avoir réussi à éviter la coupure d'une route essentielle au nord de l'agglomération. Mais partout ailleurs, la situation reste incertaine. Dans une ville réduite en cendres, 60 000 habitants avant l'invasion russe, 1 000 000 aujourd'hui, il n'y aurait même plus de ligne de front clairement définie.
Virginie Pironon de la rédaction internationale de Radio France. Et ce soir, l'Allemagne annonce qu'elle compte augmenter de 3 milliards d'euros son aide militaire à l'Ukraine en 2026 pour porter cette aide à quelque 11,5 milliards d'euros. Il s'agit notamment de remplacer les systèmes de défense anti-aérienne Patriot. Peu importe le scandale des poupées sexuelles vendues en ligne, Shein ouvrira bien demain son premier magasin physique au BHV à Paris. Visé par une enquête, la plateforme chinoise se dit prête à collaborer à 100% avec la justice française. Shein, il en a beaucoup été question à l'Assemblée cet après-midi lors de la séance des questions au gouvernement. On retrouve Adrien Taufollet au Palais Bourbon. Bonsoir. Adrien, plusieurs députés ont interpellé le gouvernement pour savoir ce qu'il comptait faire contre les dérives de Shein.
Oui, des députés choqués par le scandale des poupées sexuelles à caractère pédopornographique, plein d'émotions dans la voix, le député Les Écologistes Arnaud Bonnet ouvre le réquisitoire contre Shein.
Shein est le produit le plus abouti du capitalisme et du libéralisme débridé. On voit avec ces poupées que la pédocriminalité est banale. Un autre bien à vendre, à bas de gamme. À côté des pantalons et de t-shirts, une opportunité de s'entraîner tranquille, chez soi, avant de passer à l'acte sur des enfants.
Et puis arrive Olivia Grégoire, la députée Ensemble pour la République, qu'on ne peut pas soupçonner d'antilibéralisme, de dénoncer le reste du CV de ce géant sans foi ni loi.
La condamnation à une amende record de quelque 40 millions d'euros pour pratiques commerciales trompeuses. N'oublions pas non plus le fait que l'OCDE ait épinglé Shein pour non-respect des droits humains, des engagements environnementaux, pour transparence largement insuffisante.
Et comme tous les députés qui interpellent le ministre de l'économie, Roland Lescure, elle appelle le gouvernement à agir.
Ce n'est qu'une question. Qu'attendons-nous, monsieur le ministre, pour interdire définitivement l'accès de Shein dans notre pays?
Sur la défensive, Roland Lescure rappelle que l'État a agi immédiatement dès l'alerte donnée sur les poupées sexuelles à travers la répression des fraudes et la saisie du procureur de la République et qu'en cas de récidive...
Les plateformes qui vendent ce deux produits n'ont pas leur place en France. Si ces comportements venaient à se reproduire, notre main n'en tremblerait pas. Nous demanderions aux fournisseurs d'Internet de couper tout accès de ces plateformes au marché français.
C'est ce que permet le cadre légal, explique contraint le ministre. Cadre qu'il faut certainement faire évoluer, plaide le ministre du Commerce Serge Papin, pour que l'État se dote d'autres moyens juridiques avant que la menace ne se répète. Et elle se répétera, Serge Papin l'anticipe déjà.
Adrien Taufollet en direct de l'Assemblée, merci. Au cours de cette séance des questions au gouvernement, Sébastien Lecornu a évoqué l'accord franco-algérien de 1968 après l'adoption d'une résolution du RN la semaine dernière visant à dénoncer le texte. Le Premier ministre n'est pas favorable à son abrogation, mais il souhaite en renégocier les termes avec l'Algérie. Cet accord de 1968 établit un régime particulier pour les Algériens qui veulent émigrer en France. Les députés qui ont commencé à examiner le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ils n'ont pas terminé hier soir l'examen du PLF, le projet de loi de finances. Il restait encore plus de 2000 amendements à examiner. Le budget de la Sécu, on en reparle après ce journal dans Questions du soir avec Astrid De Villene. La France a-t-elle encore vocation à construire des voitures face à la concurrence chinoise? Oui, répond la plateforme automobile qui regroupe les constructeurs et les équipementiers français. La PFA a réuni la filière aujourd'hui à Paris, à la Cité des Sciences, pour délivrer un message clair. L'Union européenne doit renoncer à interdire la vente des véhicules thermiques à partir de 2035. En Allemagne, le chancelier Friedrich Merz rejette lui aussi cette réglementation européenne. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir, Stanislas Vazak.
La plateforme automobile estime que l'interdiction des véhicules thermiques menace des milliers d'emplois en France.
Oui, le tout électrique en 2035 ne doit pas être la seule alternative à la réduction des émissions de CO2 qui représente 18% au niveau mondial pour les automobiles. Il faut donc ne pas négliger d'autres technologies comme l'hybride, sans quoi l'industrie automobile française va continuer de détruire des dizaines de milliers d'emplois dans les prochaines années, prévient Luc Châtel, le président de la plateforme automobile.
Nous avons perdu 40 000 emplois ces 5 dernières années. Et l'étude que nous avons réalisée récemment à la PFA avec le cabinet Xerfi laisse penser que 75 000 de nos emplois sur les 350 000 qui restent dans l'industrie automobile en France, 75 000 sont menacés d'ici 2035.
En attendant, pour faire face à la concurrence chinoise qui domine le marché de l'électrique avec une avance technologique de 20 ans par rapport à nous, il est donc primordial que la Commission européenne impose aussi aux constructeurs extra-européens de produire une grande partie de leurs pièces localement pour les véhicules qu'ils vendent sur le vieux continent, estime François Provost, le nouveau directeur général de Renault.
Évidemment, ce contenu local, il doit être pratique. Il doit pousser la compétitivité et donc, de mon point de vue, il doit se faire à travers une moyenne sur l'ensemble des ventes que chaque constructeur réalise en Europe et non pas une nouvelle fois sur des réglementations compliquées qui seraient inapplicables.
Enfin, si contrairement à l'Allemagne, la France s'oppose au report de l'échéance de 2035, cet après-midi, le ministre de l'économie, Roland Lescure, s'est dit favorable à la négociation, particulièrement sur la production des pièces au niveau local en Europe.
Hakim Kasmi, merci. La saga Duralex continue dans le Loiret. La célèbre verrerie reprise en scop par ses salariés en juillet 2024 a récolté en 24 heures près de 19 millions d'euros de promesses d'investissement, alors qu'elle n'en a attendait que 5 millions en un mois, une levée de fonds record qui va lui permettre de poursuivre son redressement. Annabelle Grelier, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Duralex va devoir gérer cette manne financière pour ne pas décevoir les milliers de Français qui soutiennent son projet industriel.
Il n'aura pas fallu plus de 5 heures pour atteindre l'objectif des 5 millions d'euros de promesses d'investissement. Et au fil de la journée, le compteur n'a cessé de s'affoler, raconte le directeur de Duralex, François Marciano.
On n'en revient pas, quoi. Enfin, c'est incroyable. Vous imaginez, on est à 19 millions de 22 756 personnes qui disent « nous, on va investir chez Duralex ». Ça fait dire que, d'abord, Duralex, c'est l'usine des Français, hein, je le dis toujours. Hein, nous, on est là que pour la transmettre. C'est leur Madeleine de Proust, c'est à eux. Ils veulent pas voir Duralex disparaître et ils veulent qu'on fasse tout ce qu'il faut pour que ça tourne, surtout que depuis que c'est repris par les salariés. Et je pense que les Français poussent à sauver leur industrie. Ils disent, quand on veut, on peut. Et si on y va tous ensemble, on gagne.
Une levée de fonds record et sans aucun doute inédite. Le directeur de la plateforme de financement participatif, l'ITA, Julien Benayoun, doit maintenant trouver une manière de répondre à tout le monde.
C'est sûr que l'engouement dépasse les attentes et la solution, c'est de limiter le ticket d'investissement par personne pour que on soit très nombreux à mettre quelques centaines ou milliers d'euros et que tout le monde puisse monter à bord. Et ça rentre aussi plus dans l'ADN de Duralex, qui est coopérative, et donc ça demande du coup d'être un peu à l'inverse des standards de la finance, d'avoir un investisseur qui met plusieurs millions, là on va être plusieurs milliers à mettre quelques centaines d'euros.
La collecte est désormais close et tous ceux qui ont participé vont désormais être informés des conditions et éventuellement des risques de cet investissement.
Annabelle Grelier, merci. C'était une figure du capitalisme français. Claude Bébéard est mort aujourd'hui à l'âge de 90 ans. Il avait fondé le groupe d'assurance AXA en 1985, dont il fut le patron jusqu'en 2013. 26 ans après son premier roman, Loin d'eux, Laurent Mauvignier a décroché aujourd'hui le prix Goncourt 2025. L'auteur, âgé de 58 ans, est récompensé pour La Maison vide, une fresque familiale de 750 pages, largement inspirée de sa propre histoire. Le président de l'Académie Goncourt, Philippe Claudel, parle d'un roman fondamental. La Maison vide, une œuvre à cheval sur les deux guerres mondiales, où l'on croise des personnages comme cette grand-mère de l'auteur, dont le visage a disparu des albums photos de famille. Pierre Ropin était au restaurant Drouan à Paris lorsque le prix Goncourt a été annoncé à la mi-journée.
Ce midi, lors de la remise du prix Goncourt, Laurent Mauvignier était visiblement ému.
De la joie et puis de l'étonnement. Mais enfin, de toute façon, je suis étonné avec ce livre depuis le début, depuis qu'il est sorti. Parce que c'est un livre qui rencontre les gens. Je suis tellement touché par l'accueil. Ça fait quand même plus de 25 ans que je publie des livres, donc j'ai eu souvent ce rapport avec des lecteurs. Mais là, ça se passe quelque chose de très particulier avec ce livre. C'est extraordinaire, oui.
Dans La Maison vide, Laurent Mauvignier raconte l'histoire de sa famille en cherchant des explications à la suppression méthodique du visage de sa grand-mère découpée au ciseau sur les photos de famille. L'écrivain remonte son arbre généalogique et brosse les portraits de ses ancêtres, trois portraits de femmes au destin fauché. Pour les membres du jury du prix Goncourt, dont le romancier Pascal Bruckner, il y a dans ce livre la conjonction entre la grande et la petite histoire.
C'est un livre aussi sur la condition féminine au 19e et au 20e siècle. Et ce qui est très réussi dans le livre, c'est le piano et la métaphore de la vocation contrariée. Puisque justement, cette femme qui avait des dons extraordinaires ne pourra pas les accomplir parce que, étant femme, elle est condamnée à une vie domestique.
Ces personnages que raconte et imagine Mauvignier, on s'en sent très proche, assure de son côté une autre membre du jury, l'écrivaine Camille Laurence.
Il y a beaucoup parfois de faiblesse, de vulnérabilité, et l'absence d'amour et ses conséquences tragiques. Donc tout le monde, à un moment ou à un autre, dans ce roman, se trouve lui-même.
Avant même la remise du prix Goncourt, La Maison vide était l'un des romans les plus vendus de cette rentrée littéraire. Un succès, selon Philippe Claudel, le président de l'Académie Goncourt, qui prouve qu'il y a un appétit pour la littérature et pour la matière à penser.
Le reportage de Pierre Ropert. A noté que les jurés de l'Académie Goncourt arboraient tous un badge de soutien à Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien emprisonné en Algérie depuis bientôt un an. Boualem Sansal qui a d'ailleurs reçu aujourd'hui le Goncourt du livre de poche. Enfin, le prix Renaudot est revenu cette année à Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour son roman Je voulais vivre, un ouvrage qui réhabilite Milady de Winter, héroïne d'Alexandre Dumas dans Les Trois Mousquetaires. Un mot du temps, demain il sera nuageux à l'ouest avec des pluies sur la façade atlantique. À l'est, c'est le soleil qui dominera. Les températures sont en hausse, entre 2 et 14 degrés pour les minimales. Les maximales iront de 14 à 26 degrés du nord au sud de l'Aquitaine. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck, à la technique Anthony Thomasson.